France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Nemanja Radulović, né le 18 octobre 1985 en Serbie, à l'époque Yougoslavie, et je suis violoniste, artiste et un homme heureux.
Alors, Nemanja Radulović, vous nous avez raconté votre expérience malheureuse d'apprentissage de la musique dans un pensionnat près de Niš. Vos parents vont être sensibles, on l'entendait, au fait que vos sœurs et vous-même n'aimez pas du tout cet endroit. Et c'est ainsi qu'ils vont prendre, je crois, la décision de migrer vers Belgrade. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'autres endroits dans le pays où recevoir un enseignement de qualité?
Si, mais je pense que c'était tout un mélange de choses, comme la guerre commençait. Mes parents, surtout ma mère, c'était l'idée de ma mère, c'était de quitter Niš, qui commençait vraiment à être un milieu de plus en plus petit et refermé. Et donc je pense qu'on a pris vraiment le dernier train avant que ça commence vraiment à aller très très mal dans le pays, pour s'installer à Belgrade et continuer et toujours aller plus loin. Et c'était toujours son idée, que ça soit pour aller à Belgrade ou plus tard pour arriver en France. Elle avait pas envie de s'arrêter. Quand elle voyait des possibilités ou ce qu'on pouvait faire, elle prenait tout entre les mains et puis elle risquait. Je me rappelle même des disputes avec le reste de la grande famille et puis des amis qui disaient « Mais vous êtes fou, toi tu laisses un boulot de directeur de l'hôpital pour partir à Belgrade » sans savoir si tu vas trouver le travail ou pas. Et finalement, elle l'a fait. Et vers la fin de sa vie, je lui ai posé la question si comment elle se sentait. Et en fait, elle disait, au pire, je pouvais toujours revenir. Elle n'avait pas peur de ne pas réussir quelque chose. En tout cas, elle avait le vœu d'essayer quelque chose.
Mais elle essayait dans un contexte politique, Nemanja Radulović, qui n'était pas du tout plus clément à Belgrade qu'à Niš.
Oui, mais à Belgrade, il y avait quand même plus de possibilités. Il y avait plus de possibilités au niveau école. C'est une capitale. La Serbie, à cette époque-là, même aujourd'hui, ce n'est pas un énorme pays. Donc tout est presque centralisé à Belgrade.
Ce climat de guerre qui commence vraiment quand vous arrivez à Belgrade aussi, de plus en plus, parce que vous arrivez à Belgrade en 92.
12, 13, oui.
Oui, c'est ça. Le quotidien, quel est-il, Nemanja Radulović? Vos parents, du coup, est-ce qu'ils ont retrouvé du travail? Vous partagez entre l'école, il y a le conservatoire peut-être, ou l'école de musique?
À cette époque-là, mon père, il a gardé le même boulot, mais juste à Belgrade. Donc, il a travaillé pour la même compagnie. Et ma mère, volontairement, au tout début, elle a décidé de se consacrer aux enfants, à l'éducation et s'occuper vraiment de nous. C'était peut-être aussi difficile de trouver ça. Je me rappelle pas vraiment. Donc, ça, je peux pas vous dire avec assurance. Mais elle a en tout cas été tout le temps là pour nous. Elle nous emmenait partout. Il fallait y aller.
Vous avez 7-8 ans, c'est ça, à peu près? Donc, vos sœurs ont 10-11 ans. Vous avez le souvenir, vous, d'un premier arrachement aussi? C'est-à-dire de se dire que vous laissez les cousins, les copains, les grands?
Au tout début, oui. Quelques premières semaines, mais très vite, ça a passé parce que je me rappelle des petites choses. Par exemple, on avait l'accent du Sud. Et donc forcément, quand on s'est inscrit à l'école et quand on parlait différemment que les autres, forcément, c'était des petites réflexions par-ci, par-là. Et puis pareil, les parents nous disaient à l'époque, essayez de ne pas... Vous êtes comme vous êtes. Donc peut-être au début, ça va être difficile, mais vous allez voir, dans quelques semaines, ça va... Les gens vont venir vers vous. Et c'est ce qui s'est passé réellement. C'est vrai que j'ai passé quelques jours pénibles où j'étais tout seul pendant la récré et dans mon coin. Mais au bout de quelques jours, ça passe.
Vous avez retrouvé des gens quand vous arrivez à Belgrade? Il y avait une partie de la famille qui était là ou pas du tout?
Oui, il y avait mon oncle, en fait, qui était à Belgrade avec sa famille. Donc, on a retrouvé
les...
Non, l'autre. Le DJ, il est toujours à Niche, dans la même maison. L'autre oncle qui était en fait musicien parce qu'il était chanteur, c'était la seule connexion avec la musique, c'était avec cet oncle-là. Donc c'était bien parce qu'il avait aussi des enfants de notre âge. Donc c'était bien aussi de voir les cousins qu'on ne voyait jamais à l'époque parce qu'on était à Niche et eux à Belgrade. Et puis là, on pouvait se voir beaucoup plus souvent. Donc on n'était pas complètement seul. Puis très vite, on a fait des connaissances... Pour ça, la Serbie, même aujourd'hui, c'est formidable parce qu'on rencontre des gens très facilement. On se met à parler et puis ça peut faire des magnifiques amitiés qui se sont faites spontanément, en fait.
Quel va être votre parcours d'instrument quand vous arrivez à Belgrade? Comment les choses évoluent? Parce que finalement, vous faites du violon depuis très peu de temps. Ça fait juste
oui,
quelques mois.
Ça fait que quelques mois. Et en fait, c'était grâce à une connexion. C'était un académicien qui était de Niche et qui était un ami proche de la famille. Il a passé un coup de fil à un autre académicien de l'université nationale. Et il était musicien, lui, en disant, est-ce que tu peux auditionner, c'est vraiment des amis, ils commencent tout juste parce que les parents voudraient bouger de Niche, mais est-ce que ça vaut aussi le coup de continuer ou pas? Donc il a organisé ça, on l'a rencontré, Stanoj Lorajčić, qui est aussi compositeur, donc ce monsieur-là. Il m'a auditionné et je me rappelle, j'avais joué deux pièces et puis à la fin, il me disait, mais joue-moi autre chose. C'était des pièces courtes de quelques minutes. J'ai commencé à lui jouer des gammes parce que j'avais appris rien d'autre en fait à jouer. Il m'a dit qu'il n'était pas spécialisé dans le violon, mais qu'il pense que j'avais un talent et que j'étais doué pour ça. Et il a fait la rencontre la même après-midi avec mon professeur qui est devenu Dejan Mihajlović. Et après cette rencontre-là, il a dit qu'il souhaiterait en fait travailler avec moi.
Ce professeur-là, vous l'avez gardé du coup plusieurs années alors?
Oui,
c'était un élève d'Oistrakh, non?
Oui, c'était un élève de David d'Oistrakh à Moscou. En fait, il avait surtout les élèves qui étaient à la fin de leurs études, en fait, dans les cycles de perfectionnement. Et il avait trois jeunes, apparemment talentueux, et doué qu'il suivait depuis le début, dont je faisais partie. Donc pour moi, il était toujours là. Et c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Il n'a pas fait beaucoup de concerts, il n'a pas fait beaucoup de choses sur scène, mais un pédagogue incroyable qui... il nous aidait à développer notre intuition par rapport à la musique. Ça, c'est vraiment une des rares qualités des professeurs, parce que souvent... On essaye de cadrer et puis d'expliquer ou de montrer comment il faut faire. Mais en fait, il nous développait notre imagination beaucoup plus. Et tous ces élèves ont des techniques différentes, des coups d'archer différentes, de la façon d'expression différente. Et,
c'était une classe, en fait. Vous étiez ensemble. C'était pas des cours... individuel, il y avait cette notion.
C'était aussi des cours individuels et il avait créé aussi un ensemble de violonistes. De tous ses élèves, on était plus de 50. Donc il y avait les grands et puis il y avait quelques petits aussi qui entouraient la plus grande. C'est là où on a aussi appris à jouer avec les autres, ce qui était important. Il nous a quittés il y a 2 ans, c'était un jour très triste et on est resté jusqu'à la fin de sa vie très proche. Lors des stages pendant l'été et l'hiver, ils nous faisaient une sorte de concours entre nous où en 1 heure on devait apprendre une pièce sans l'instrument, juste à la vue d'une partition. On laissait tous dans la salle où se passait le concours nos instruments et quand c'était notre passage, on prenait l'instrument qui était sur le piano et on jouait ce qu'on venait d'apprendre pendant 1 heure par cœur. C'était la première épreuve. Le deuxième, c'était une autre pièce qu'on apprenait avec l'instrument, mais beaucoup plus difficile. Et puis la troisième épreuve, c'était une improvisation. Donc on n'avait aucune partition, on se lançait, on nous donnait un petit thème de quelques mesures, et puis il fallait faire une pièce de 5 minutes. Donc je pense que c'est aussi grâce à ça que j'apprends assez rapidement le texte.
C'est assez rare dans le circuit purement classique, académique, de favoriser l'improvisation, à part pour l'orgue, où c'est quelque chose qui fait partie de l'orgue classique.
Oui.
C'est étonnant.
Oui, mais ça c'était mon premier professeur, donc Dejan Mihailovic. Il avait des méthodes, comme je disais plus tôt, à lui, où il nous laissait se développer artistiquement. Je pense qu'il était tellement intelligent, cet homme, qu'on pouvait avoir l'impression qu'il est assez réservé. Mais en fait, je pense que quand il n'était pas sûr, il ne disait pas grand-chose. Et des fois, juste avec un seul mot, qu'à l'époque, je ne pouvais pas comprendre parce qu'il utilisait des termes universitaires que, du coup, ma mère venait au cours avec moi parce que je ne comprenais pas la moitié, du coup. Après, sur le chemin de retour à la maison, elle me traduisait tout ce que le prof voulait dire. Voilà, avec ce côté un peu réservé et en même temps de nous laisser la liberté d'explorer les répertoires qu'on voulait, de donner un répertoire très difficile qu'on donne jamais à cet âge-là. Je pense qu'il a fait des choses en moins qui sont aujourd'hui faciles. Par exemple, quand j'apprends une partition, je sais sur quoi me concentrer pour comment avancer au plus vite. C'est-à-dire d'avoir une, même si j'ai pas les moyens de jouer de début à la fin sans erreur, mais quand même de faire cette première impression est très importante. Qui finalement ne change pas dans la vie. Souvent, cette première impression, c'est toujours la bonne. Quand on rencontre quelqu'un, c'est pareil pour l'œuvre. C'est ce qu'il nous disait. Voilà, il y a beaucoup de ça qui est resté.
Les grands entretiens de Nemanja Radulovic, France Musique.
Ça veut dire qu'il y a des concerts très vite qui arrivent aussi, même noyés dans ce grand ensemble quand on est tout petit. qu'on fait partie de cette classe. C'est l'occasion de pouvoir découvrir la scène. C'est comme ça que vous l'avez découverte la première fois ?
La première fois, je pense que je devais jouer quelque chose à Niche, quelques semaines après avoir commencé pour ouverture d'une exposition d'un ami peintre. Ça, je me rappelle, j'avais joué avec mes sœurs qui commençaient peut-être quelques jours au plus tôt. C'était tellement drôle parce que je sais même pas qu'est-ce qu'on a joué. Ça devait être ridicule. En tout cas, ce qui est bien, c'est que dès le début, on était confrontés à la scène. Donc, on faisait pas seulement la musique, on la travaillait pas juste dans notre chambre pour la jouer à un professeur, on la travaillait pour jouer à un public. Et effectivement, les concerts avec professeur Mikhailovic, c'était le grand bonheur parce que déjà, on pouvait jouer avec d'autres enfants, mais il nous faisait aussi jouer en solo tous les lundis et tous les jeudis. Pendant toute l'année, il avait une saison où, pas seulement ses élèves, mais où il programmait des concerts et on faisait tout le temps des concerts. Mais je me rappelle qu'au tout début à cette première rencontre, il avait dit à mes parents que j'allais mettre plusieurs années avant de me développer sûrement. Et finalement, au bout de quelques mois, il est arrivé, il dit... Mais je me suis trompé. Je pense que Nemanja est prêt pour jouer avec orchestre de l'école, un concerto de Vivaldi. Pour moi, c'était vraiment inattendu parce que à cette époque-là, je m'attendais pas déjà à être de jouer autant que soliste. Et c'était là en fait la toute première rencontre, la vraie rencontre avec la scène. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'avais un sourire. J'avais une attention en regardant la chef d'orchestre qui dirigeait. Je pense que j'ai même une vidéo de ce concert qui était filmée avec des cassettes VHS. Mais il y a quelque chose dans le regard, on sent que je suis content d'être là.
Vos sœurs, pendant ce temps-là, Nemanja Radulovic, elles apprennent le violoncelle dans la même école ?
Dans la même école, donc elles étaient dans la même école. En fait, j'avais avancé dans l'école par correspondance maternelle pour avoir mon bac assez tôt. Donc à 13-14 ans, on a terminé tous les trois pour se retrouver dans la même classe avec les sœurs. C'était plus facile aussi d'organisation. Je pense que c'est pour ça aussi que les parents ont décidé de faire ça. On était finalement dans la même classe musicale au conservatoire, violoncelle avec une professeure très très différente de mon professeur, qui était assez rigide et qui quelques années plus tard est devenue aussi ma professeure de musique de chambre. Et c'était très drôle parce qu'elle était tellement concentrée sur, on faisait un trio, elle était tellement concentrée sur le violoncelliste en question que je suis jamais arrivé au cours à jouer une note. Parce qu'en fait, elle faisait travailler que le violoncelliste. Donc voilà, les deux différences de deux professeurs.
Et vos sœurs, elles aussi, elles avaient ce rapport à la musique qui se développait comme quelque chose d'assez fort, qui prenait de plus en plus de place, ou c'était vraiment vous qui alliez développer cette vie avec la musique davantage qu'elles ?
Au tout début, on était tous les trois sur la même lancée. Ensuite, c'était plus sur moi. En même temps, j'avais eu la chance aussi d'arrêter après la deuxième année à l'école normale. J'avais la chance de suivre les cours par correspondance et de me consacrer beaucoup plus au violon, ce que mes sœurs n'ont pas pu faire parce qu'elles étaient déjà au collège. Et du coup, c'était... pour elle, plus difficile. Et puis, je pense que on est très différents. Moi, je pense en musique. Je suis vraiment que en musique. Lisa, elle était plus concentrée avec la musique, mais elle adorait voir différentes choses aussi dans la vie. Elle était très ouverte d'esprit. Danica, qui travaillait toujours au dernier moment et elle avait toujours des bonnes notes, mais elle faisait rien pendant l'année, puis elle se retrouvait avec des bonnes notes. Donc voilà, on est tous les trois différents.
Et ces cours par correspondance, c'était des moments de solitude, du coup, que vous aviez?
Non, c'était vraiment... J'ai adoré, en fait, quand j'ai commencé les cours par correspondance, parce que du coup, j'avais vraiment le temps de me consacrer à la musique et d'être avec des enfants qui étaient musiciens. Donc, j'étais plus celui qui était différent à l'école normale et celui qui faisait un instrument pendant que les autres jouaient au foot ou faisaient autre chose. Et puis, de l'autre côté, je travaillais avec mes sœurs parce qu'elles avaient déjà passé ces cours-là, donc elles m'aidaient beaucoup et ça nous a encore plus rapprochés.
Est-ce que très vite, il y a quelque chose de l'ordre de... On a repéré un violoniste exceptionnel, tout jeune, et il y a cette pression qui vous arrive parce que les professeurs vous mettent en avant, que vous êtes tout petit, que vous vous retrouvez sur le devant de la scène très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où vous avez le sentiment d'avancer tranquillement?
Moi, j'avais pas la pression et en même temps j'étais pas la seule parce qu'il y avait d'autres enfants aussi. Je pense à Sania Biziak qui fait aussi une belle carrière. On est de la même école de musique et puis Sania, elle faisait des concerts avec orchestre. Je sais, on a enregistré pour l'édition de la radio-télé serbe une première cassette où elle joue un concerto de Haydn. Et je jouais concerto de Bruch avec l'orchestre de l'armée. Mais c'était normal. En fait, il y avait d'autres enfants. Donc, j'avais pas non plus l'impression d'avoir été mis devant ou que j'avais plus de responsabilités que d'autres personnes. C'était ma vie et voilà.
Thank you. Un extrait du concerto de Tchaïkovski enregistré cet été au Festival de Montpellier avec Nemanja Radulovic et le e-Culture Orchestra dirigé par Kirill Karabits. C'est ainsi que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Nemanja Radulovic. Réalisation Perrine Minguy, prise de son mixage Manu Couturier, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Podcast sur francemusique.fr. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.